18h10, 19h, Topette, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins sur Radio G.
Bienvenue dans Topette, la quotidienne de Radio G qui vous dévoile tout sur l'actualité locale. Lundi, eh bien, il n'y avait pas d'émission puisque c'était lundi de Pâques. J'espère d'ailleurs que vous avez tous pu passer de bonnes fêtes. Demain, normalement, on sera avec le Bagade Festival et jeudi avec le CDN. Et ce soir, on vous embarque dans un projet, le projet Ave Bitchy, j'espère que je le prononce bien. Une aventure humaine et solidaire menée par Victor et Fabien, deux étudiants qui ont décidé de relier Angers à Valence en vélo pour soutenir les victimes des inondations d'octobre 2024 en Espagne. Un défi donc sportif, mais surtout un engagement fort pour la solidarité et l'environnement et aussi le pouvoir d'agir à son échelle. On parlera évidemment de leur parcours, de l'organisation du voyage, de la récolte de dons et bref de toute l'aventure qui les attend. Ce soir, on aura aussi la drôle de vie de Léona Graal. On aura aussi l'édito en pro de Charles. Bonsoir Charles.
Salut Nolwenn, comment ça va?
Ça va super et toi?
Oui, ça va très bien.
De quoi on va parler ce soir?
Alors aujourd'hui, on termine le Topette Geographic sur les styles de jeux d'improvisation et on termine en beauté avec le service.
Eh bien, on donne rendez-vous à nos auditeurs en deuxième partie d'émission pour l'édito. Et Topette, c'est parti pour ce soir jusqu'à 19h.
18h10, 19h. Topette sur Radio G.
Mais juste avant tout ça, on va faire un petit point sur l'actualité locale avec toi, Emilien. Bonsoir.
Bonsoir, Nolwenn.
Une messe exceptionnelle pour rendre hommage au pape.
La disparition à l'âge de 88 ans du pape François, annoncée lundi 21 avril, a suscité une vague d'émotion chez les chrétiens angevins. Dans un communiqué publié par le diocèse d'Angers, une messe exceptionnelle est organisée en l'honneur du défunt pape mercredi 23 avril dans la cathédrale Sainte-Maurice à 19h. Monseigneur Delmas, évêque d'Angers, a souligné une papauté engagée dans la justice sociale et la paix mondiale. Ses paroles très simples ont marqué le cœur de nombreux fidèles, a-t-il affirmé. Ce week-end de Pâques a également été marqué par de nombreux baptêmes, un nombre en augmentation qui révèle un certain renouveau de la jeunesse chrétienne à Angers, puisque 79 adultes, dont 69 sont âgés entre 18 et 40 ans, ont été baptisés au sein du diocèse.
Nathalie Arthaud, pardon, porte-parole nationale de la lutte ouvrière à Trélazé samedi.
La triple candidate à l'élection présidentielle Nathalie Arthaud se rendra samedi 26 avril à la fête nationale de lutte ouvrière organisée à Trélazé. Au programme, des expositions à teneur politique sur l'émancipation des femmes, le capitalisme ou encore les relations internationales. Dans une ambiance plus festive, l'événement proposera également des karaokés et un concert de jazz manouche. Nathalie Arthaud, porte-parole nationale de lutte ouvrière, prendra la parole lors d'un débat à partir de 17h30. L'événement se déroulera au 48 rue Joseph Barra, salle Louis-Aragon, de 15h à minuit.
La Fashion Revolution Week à Angers.
À Angers, la semaine du 22 au 26 avril sera dédiée à un festival sur la mode responsable et respectueuse de l'environnement. Représentée par l'association L'Âme du Fil, une série de journées d'action et de sensibilisation sera proposée aux visiteurs. Durant ces 5 jours, plusieurs lieux seront au cœur de l'événement, le cinéma Les 400 Coups, le 42 situé rue Hamelin, le centre Jacques Tati, le bar L'Échappée Belle et le centre culturel 8 Épi. Les bénévoles présents sur place auront pour mission, entre autres, de créer une œuvre textile collective. Une création porteuse d'un double message, d'une part celui de s'opposer au surconsumérisme vestimentaire et du prêt-à-porter des grandes industries textiles, d'autre part celui de s'engager vers une industrie de la mode plus juste et transparente. De nombreuses autres actions et animations seront organisées tout au long de la semaine dans les lieux partenaires. La Fashion Revolution Week est un événement annuel rassemblant les plus grands mouvements de l'activisme de la mode à travers le monde. Cet événement a pour ambition d'imaginer un système de la mode juste et équitable pour les humains et la planète.
Merci beaucoup, Emilien. On te retrouve dans 2 semaines pour un nouveau flash, pardon. Et petite information, juste avant d'accueillir nos invités du soir, la salle Camille Lepage de la Maison de Quartier des Hauts-de-Saint-Aubin organise un concert ce samedi 26 avril au programme de la pop-rock avec Toucan Toucan et de l'alternative Airbnb avec Chris Théodian. Et on peut tout de suite accueillir nos invités du soir.
L'invité de Topette sur Radio G.
Et aujourd'hui, je le disais en début d'émission, on va prendre la route, ou plutôt les pistes cyclables, avec deux jeunes passionnés qui ont décidé de pédaler pour la bonne cause, direction l'Espagne, à vélo. On est donc avec les fondateurs du projet Avicii. Victor, bonsoir.
Salut, bonsoir.
Et on est aussi avec Fabien, bonsoir.
Salut.
Alors, est-ce que vous pouvez peut-être d'abord rappeler tous les deux le contexte, comment est née l'idée de ce projet Avicii? D'ailleurs, est-ce que je le prononce bien, Victor?
Tu peux le prononcer comme tu veux, mais nous, on dit plutôt AVBC, parce que c'est A comme Angers, Valencia, N bicicleta, donc A vélo en espagnol. Et pour ce qui est du contexte, du coup, en fait, il y a eu des inondations à Valence, dans le sud de la ville, en octobre 2024, donc. Et en fait, nous, ça nous a particulièrement touchés parce que déjà, on est étudiants en espagnol. Du coup, l'Espagne, on suit pas mal ce qui se passe là-bas. Et moi, particulièrement, j'ai de la famille dans le coin. Du coup, on avait déjà ce projet de voyage à vélo sur une grande distance. Et on a décidé de faire de ce projet un projet solidaire après ces événements, justement.
Et quel va être votre rôle, Fabien, à chacun? Quel rôle vous allez jouer dans ce projet?
En fait, on a tous les deux plus ou moins le même rôle en même temps. On ne s'est pas forcément réparti, toi tu fais ça, moi je fais ça. Mais d'une manière générale, on a tous les deux réfléchi aux goodies pour trouver la trésorerie, enfin pour renflouer la trésorerie, pour pouvoir trouver du matériel. Et après, c'est vrai que certaines choses ont été plus faciles pour moi ou pour Victor. Par exemple, Victor, lui, connaît mieux les vélos. Donc du coup, pour le matériel, pour la réparation, pour ce qu'il fallait emporter pour le bikepacking, il savait tout de suite mieux quoi faire. Donc c'est lui qui a plutôt élaboré le budget. Alors que moi, j'ai plus eu un regard créatif sur quelles idées on voulait avoir pour la communication. Parce que vu que j'ai déjà fait un peu de communication avant, je connaissais un peu.
Et alors, on peut peut-être rappeler pour nos auditeurs, quels vont être les grands objectifs de ce voyage, Victor?
Eh ben, le grand objectif, c'est venir en aide aux sinistrés de la région sud de Valence qui a été touchée via deux assos. En fait, on va aider deux assos là-bas. Une, c'est un centre d'accueil de jour pour personnes en situation de handicap. Et en fait, leurs locaux ont été sinistrés avec les inondations. Donc, on veut contribuer à les aider en rachetant du mobilier, en fait. Et il y a une deuxième asso qui, elle, récupère des vélos, les répare et les offre aux gens qui ont perdu leur mobilité parce qu'ils ont perdu leur voiture ou leur vélo dans les inondations, dans les pluies torrentielles. Et du coup, on veut les aider en récoltant des sous, c'est le nerf de la guerre, via une cagnotte en ligne. Et donc la totalité des dons qui seront récoltés leur sera reversée.
Alors, est-ce que pendant tout ce projet, est-ce qu'il y a des valeurs personnelles ou citoyennes que vous voulez transmettre au travers de ce voyage, Fabien?
En fait, ce qu'on veut montrer, c'est la solidarité. Le fait que quand il y a des gens qui ont besoin d'aide, on peut les aider grâce, par exemple, au financement de la commune. Nous, en particulier, c'était le financement de l'aide du CVEC par la fac Université Angers. Et donc, c'est aussi pour pouvoir montrer que on peut, et que nous, on avait cette sensibilité, donc on a voulu les aider, mais que si quelqu'un d'autre a une sensibilité et veut aider une autre cause, eh bien c'est vraiment possible. Et que, voilà, c'est pour montrer qu'on avait les outils pour le faire, quoi.
Et est-ce que vous avez été peut-être inspiré par d'autres projets similaires de solidarité, des choses comme ça, Victor?
Ouais, carrément. Moi, j'avais vu passer sur les réseaux un gars qui faisait toute l'Amérique à vélo. Il était atteint par la maladie de, je ne sais plus le nom de la maladie, Huntington, si je ne dis pas de bêtises. Je crois une maladie dégénérative. Et donc lui, il a parcouru toute l'Amérique pour sensibiliser, rencontrer la communauté et sensibiliser le plus de personnes possible. Et du coup, nous, on s'est inspiré un peu de ce projet-là aussi parce qu'on a pour projet de s'arrêter, de faire étape dans pas mal de villes sur le trajet. Donc, par exemple, en France, La Rochelle, Bordeaux, Biarritz. Et on aimerait rencontrer là-bas la communauté cycliste et toucher le plus de personnes là-bas en organisant des événements avec les assos vélos du coin ou les cafés vélos. Du coup, ouais, on s'est pas mal inspiré du projet de ce gars-là, ouais.
Et alors vous êtes tous les deux étudiants donc en espagnol. Est-ce que la langue et la culture espagnole elle joue un rôle dans ce projet, Fabien?
Je dirais que oui, en partie, parce que on étudie la langue, on étudie aussi un peu la culture. Et Victor, lui, il a de la famille dans la région de Valencia. Et moi, j'ai déjà voyagé en Espagne plusieurs fois. Donc, la culture en elle-même, c'est aussi vouloir représenter quand on va passer à Valencia, par exemple, montrer un peu comment est-ce que c'est là-bas. Et aussi culturellement, pas juste représenter, ah oui, c'est sinistré, mais aussi représenter qu'ils arrivent quand même à vivre et à toujours avoir cette chose différente de nous. Et c'est aussi ça, enfin, qui est intéressant. De montrer qu'ils arrivent à rester eux-mêmes malgré cette situation et qu'ils sont très forts quand même.
Ce qu'on veut montrer aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'entraide. Il y a des gens, au lendemain des inondations, il y a des gens de toute l'Espagne qui sont venus aider à balayer, à nettoyer, tout ça. Et il y a toujours plein de gens qui sont prêts à venir aider. Ce qui manque, c'est peut-être les fonds, en fait, parce que ça n'a pas l'État et la région n'ont pas forcément remboursé, donné tout ce qu'il fallait en termes de sous pour aider à leur construction. Donc ouais, il y a de la solidarité, c'est ce qu'on veut montrer, et on veut aussi apporter du financement, quoi, parce que c'est ce qui manque.
Fabien, Victor, vous restez avec nous, on continuera à parler notamment du parcours, de votre parcours et de l'organisation de tout ce voyage, mais on va d'abord faire une petite pause musicale sur le 101.5 FM, on écoute Le Jour d'Après.
Comme le printemps passe à l'as, comme la peur refait surface, je suis venu, j'ai vu, j'ai perdu. Comme le grand monde a tari, la claire fontaine, l'eau du puits, je suis venu, j'ai vu, j'ai tout bu. Si j'avais su, si j'avais su qu'il me manquerait. Comme il est, le jour d'après, le jour d'après. Drapeau noir de flamme, planté sur les plus vieilles âmes, je suis venu, j'ai vu, j'ai pas cru. Tout s'éclate à la fenêtre, comme autant de lettres ouvertes, je suis venu, j'ai vu sur la rue. Si j'avais su, si j'avais su qu'il me manquerait. Comme il est, le jour d'après, le jour d'après. Comme la peur aussi se lasse, je suis venu, j'ai vu, j'ai tenu. Comme le grand monde est petit, sans Rome, Vienne ou Paris, je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Si j'avais su, si j'avais su qu'il reviendrait. Comme on est, beau comme on est, le jour d'après. Le jour d'après.
On est écoutait Le jour d'après de Cyril Mokeish sur le 101.5 FM. Vous êtes toujours à l'écoute de Topette. On parle toujours du projet AV Bici, du coup. Un projet de grande ampleur, mais qui ne se résume pas à des kilomètres à vélo. Il y a aussi toute une logistique derrière, un itinéraire à penser, des associations à contacter et une vraie stratégie solidaire. Du coup, concrètement, comment ça s'organise votre itinéraire d'Angers à Valencia? Quelles vont être les grandes étapes de votre parcours, Victor?
Alors, on va suivre les voies vélo, donc l'Eurovélo 1. On va longer la côte atlantique, parce que ça va être sympa déjà, je pense. Mieux que passer par les terres, peut-être. Et ça s'organise aussi par les villes-étapes, où on va rencontrer donc la communauté cycliste, comme on disait tout à l'heure. Et aussi parce que nous, on a de la famille dans certaines villes, donc ça nous fait faire les étapes dans les grandes villes, à La Rochelle, Bordeaux, Biarritz. Et puis pour l'Espagne, on verra, on avisera.
Et pourquoi avoir choisi le vélo comme moyen de transport, Fabien?
Parce que déjà, on est tous les deux passionnés de vélo. On en fait depuis très longtemps. Et aussi parce que c'est un moyen de transport écologique. Et aussi un peu, ça nous permet de faire un voyage. Et comme ça prend dans la durée, on peut aussi communiquer plus longtemps sur le projet. Et donc, on trouvait ça intéressant d'avoir à la fois un temps long, mais pas trop long, et que ça reste écologique, et que nous, ça nous plaît en fait de faire du vélo. Donc, si en plus, on peut faire du vélo pour aider des personnes, c'est vraiment tout bénef.
Et comment vous avez prévu de gérer tous les aspects techniques du genre hébergement, alimentation? Fabien, Victor.
Donc du coup, pour l'alimentation, on compte faire, pas forcément au jour le jour, mais pas forcément prévoir très longtemps, parce que plus on a de nourriture sur soi, plus ça va être lourd, et donc paradoxalement, il va falloir pousser encore plus fort. Donc on va essayer de surtout prévoir sur 3 jours, mais si besoin, on aura de la nourriture lyophilisée, des barres énergétiques offertes par Petit Pois Carotte, qui est une boutique dans le centre d'Angers. Enfin non, pas du tout dans le centre, à Belle-Baye.
Dans le centre de Belle-Baye.
Dans le centre de Belle-Baye, oui.
Et côté préparation plutôt physique, Victor, est-ce qu'il y a un entraînement à avoir avant ou finalement vous êtes déjà un petit peu entraîné au quotidien?
Alors, on n'a pas été ultra rigoureux, on prépare pas... On n'a pas préparé comme on prépare les JO, mais on fait du vélo tous les jours déjà pour aller à la fac. Moi, je fais des livraisons à vélo chez Frère Toc, là, qui bosse sur Angers et sur plusieurs villes aussi. Et Fabien m'a suivi plusieurs fois dans ces livraisons-là. Donc, à la semaine, on enchaîne entre 100 et 150 km. Donc, je pense qu'on va être pas mal.
Est-ce qu'il y a une étape de votre itinéraire que vous attendez peut-être tout particulièrement, Victor?
Ouais, moi j'ai hâte de... J'aime bien la France, hein, bien sûr, mais j'ai hâte de passer en Espagne. Je pense que ça va être chouette, cette bascule au niveau de la frontière, passant les Pyrénées par la mer, là, après Bayonne, enfin après Biarritz, avant d'arriver à Saint-Sébastien et Pamplonne, quoi. Ça va être chouette, je pense, ce moment-là.
Moi j'ai une question, c'est maintenant là, moi qui est pas du tout dans le vélo, là. Puis on le voit déjà, c'est pas très radiophonique, mais on voit déjà juste à la carrure, la différence de carrure entre vous et moi, on n'est pas du tout sur le même casting, d'accord? Mais c'est quoi une journée de vélo, dans le sens, vous allez avaler combien de kilomètres dans une journée? Moi j'ai l'image que vous allez dormir dans des caniveaux, en dessous des bâches, que vous allez vous nourrir en chassant la nuit. Comment ça se passe sur le quotidien? Est-ce que... c'est ça. C'est quoi le quotidien d'un voyageur vélo?
Bon, alors déjà, je voudrais revenir sur notre carrure. Ouais. Je pense que dans les descentes, tu irais beaucoup plus vite que nous.
Ouais, ben, je pense que
peut-être dans les montées où ça serait plus chaud.
Ouais, ben, moi, c'est ça qui me fait peur, hein, pour être franc.
Sinon, on a prévu une cinquantaine de kilomètres à la journée.
Cinquantaine, ok.
À peu près. Bah, en fait, on imagine que parfois, ça sera un peu plus, parfois un peu moins. On ne va pas pile s'arrêter quand on arrive à 50, quoi. On va pas dormir dans les caniveaux, on va essayer de dormir plus dans la nature, bivouaquer la nuit. On est en hamac, donc y a ce côté-là qui va être chouette aussi. Moi, c'est un des côtés que j'attends aussi avec impatience, d'aventure en fait, tu vois.
Le côté un peu route, un peu aventure, c'est ça, la découverte, ouais.
Et si on pouvait chasser, si on avait notre permis de chasseur, pourquoi pas, tu vois, ça serait cool. Mais non, ouais, il y a un truc d'aventure route qui nous plaît bien aussi dans l'aventure.
Mais vous en avez déjà fait par le passé, dans le sens où vous avez fait d'autres, parce que là on parle d'un truc qui est assez, ouais, assez impressionnant. Vous avez fait d'autres aventures moins longues, moins demandantes sur plusieurs jours que vous avez fait par le passé?
Non. Mais...
Ah, toi, c'est ton baptême carrément. Tu dis, je vais commencer par le truc hyper violent.
Ouais, j'ai toujours fait ça. Moi, je commence par le plus difficile. Mais j'ai déjà fait du camping, j'ai déjà fait du vélo. C'est la même chose en même temps, non?
Bah, je sais pas, c'est toi qui vas me dire. C'est toi qui vas me dire quand tu vas revenir.
Du coup, oui, c'est la même chose, mais en même temps, quoi. Non, du coup, c'est périodiquement. C'est d'abord, on fait du vélo et ensuite, on fait du camping. Du coup, ça va finalement.
Ouais. Moi, j'ai un peu cette expérience-là. J'ai de la famille dans le sud de la France et je suis allé bivouaquer un peu en nature, tout ça. Donc, ouais, par contre, partir plusieurs jours en vélo, non. J'ai déjà fait du vélo plusieurs jours d'affilée, enfin, en fait, tous les jours depuis plusieurs années, mais jamais de voyage comme ça, non, non. On se lance vraiment dans le grand bain, quoi, direct. Mais ça va être cool, je pense.
Et on parlera de la dimension notamment solidaire surtout et de la collecte du fonds qui est très importante dans votre projet. Juste après, on va d'abord passer à la drôle de vie de Léona Graal sur le 100.5 FM.
La drôle de vie, la drôle de vie, la drôle de vie.
Dans certaines radios associatives, on diffuse à l'antenne des titres non commerciaux, souvent méconnus et parfois surprenants.
Aïe, aïe, ouïe, 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 aïe, 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 ouïe, ouïe, aïe, ouïe, ouïe, aïe, ouïe, ouïe.
Et voilà, de retour à Radio Occasion, ici Pierre-Louis Trudeudly. On vient d'entendre une interprétation, ma foi, très... qui a vraiment de la... Bon, je finirai ma phrase quand j'aurai trouvé un adjectif approprié. En tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a une sonorité tout à fait atypique, hein, comme tu l'as entendu. Oui, je me permets de tutoyer mon seul et unique auditeur. En fait, pour t'expliquer, l'artiste a frappé ses testicules sur un tambour pendant l'enregistrement. D'ailleurs, son album s'appelle Robert Spetlebourse sur le tambour. Et j'ai la chance de le... Bonsoir Robert.
Bonsoir Pierre-Louis.
Alors, on a écouté un extrait de votre... je sais pas comment appeler ça, mais quoi qu'il en soit, il s'agit de votre premier album, c'est bien ça?
Oui, tout à fait, c'est le premier et je pense que ça sera le dernier.
Ah bon, pourquoi?
Bah parce que j'ai plus de couilles.
Ah oui, bien sûr, d'ailleurs c'est un single, hein. Vous n'avez pas pu enregistrer d'autres chansons.
Oui, une seule, ça m'a suffi.
Robert, dites-nous.
Oui.
Ah non, pardon, on a perdu notre auditeur. Donc dites-moi plutôt d'où vous est venue l'idée de. Comment avez-vous envisagé la. Parce que pourquoi le.
Très bonne question, Pierre-Louis. En fait, c'est une technique ancestrale qui se transmet de génération en génération dans ma famille.
En tout cas, j'imagine que vous ne pourrez plus la transmettre maintenant que vous êtes stérile.
Ouais, c'est vrai, j'ai pas été très cool avec mes testicules.
Comme on dit, vous n'êtes pas les deux couilles mortes.
C'est sûr, mais j'espère au moins que l'album fera un minimum de ventes.
On espère aussi que vous ayez un peu d'argent pour en refaire d'autres.
D'autres couilles?
Non, non, d'autres albums.
Ah, ok.
En tout cas, merci pour cet échange, Robert.
Au plaisir.
Quant à moi, étant donné que plus personne nous écoute, je rends l'antenne et vous bascule sur la fréquence de Radio Mammouth qui sera plus intéressante. Bonsoir.
Eh bien, bienvenue à tous et à toutes. Vous êtes à l'écoute de Radio Mammouth, ici Samuel Casse-la-Croûte. Faites bien attention à vous si vous êtes sur la route. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir avec nous Fabien Lagoutte. Bonsoir à vous.
Bonsoir, Samuel.
Première question, Fabien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui rime avec août?
Touf?
Non, pas avec ouf, avec août.
Foutre?
Non, bon, laissez tomber. Alors, Fabien, vous êtes un expert en chansons rétro.
Exactement.
Il paraît que vous connaissez toutes les chansons rétro par cœur, c'est vrai ça?
Oui, tout à fait. Je connais tout parfaitement sur le bout des doigts.
Mais quand on chante, c'est avec la bouche.
Oui, pardon, je veux dire, je connais tout sur le bout des lèvres.
C'est vrai que plus personne n'écoute de vieilles chansons aujourd'hui.
Oh si, vous savez, il y a quand même plein de gens qui...
Oui?
Bon là, j'ai pas d'exemple, mais je suis sûr qu'il y en a.
Si je vous dis Georges Brassens, par exemple.
Oh lui, ça fait longtemps qu'il écoute plus rien, il est mort.
Non, je veux dire, plus personne n'écoute du Georges Brassens, aussi.
Eh ben, figurez-vous que moi-même, je...
Ah, vous en écoutez?
Non, pas du tout, c'est ce que j'allais dire, moi-même, j'en écoute pas.
On a une question ici d'une auditrice qui nous demande ce que vous pensez de l'évolution de la musique.
Ah, bah ça, c'est une... Eh ben, vous savez, pour tout vous dire, moi je pense que, vous voyez, je...
Vous voulez peut-être reformuler votre phrase?
Non, je suis assez content du résultat.
Merci Fabien.
La drôle de vie.
La drôle de vie de Léona Graal a retrouvé dans 2 semaines sur Topette. Et nous, on est toujours avec Victor et Fabien pour parler de ce projet qui n'est pas seulement sportif, mais surtout solidaire. Donc on peut peut-être parler des bénéficiaires de votre projet. Il y aura deux associations, je crois, qui vont être bénéficiaires, Victor.
Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Y a une asso, donc c'est un centre de jour pour personnes en situation de handicap. Et eux ont perdu pas mal de... En fait, ils ont perdu mobilier, leur matériel. Bon, ça, on ne va pas leur financer, mais une partie du mobilier. Et il y a une autre asso. Donc, la première asso, c'est ADISA. C'est l'acronyme en espagnol de, en gros, Association pour personnes handicapées, un truc comme ça. Et la deuxième, c'est un collectif qui s'appelle Soterania. Et eux sont dans une action sociale. Par exemple, ils font des friperies gratuites, ce genre de trucs, un prix libre. Et puis, ils distribuent des vélos. Et c'est dans ce projet qu'on va les aider.
Et alors, concrètement, Fabien, à quoi vont servir les fonds récoltés?
Donc, du coup, une partie des fonds, la première partie des fonds sera d'abord reversée à ADISA, donc pour payer les meubles qui ont été complètement pourris à cause de l'eau. Et ensuite... on va aider une personne qui fait partie de l'association et qui a besoin d'un traitement médical et où son logement a été détruit par la DANA, enfin, par les inondations. Et donc, c'est pour l'aider à être logé et avoir un traitement, être sûr d'avoir son traitement. Et une fois qu'on a récolté tout l'argent pour ADISA, le reste sera redonné à Soterania pour... financer de nouveaux vélos et les réparations et les outils.
Et alors, comment ça se passe, la collecte de fonds? Comment on arrive à collecter tout ça, Victor?
On essaye dur. On essaie d'en faire parler le plus possible partout, en fait. Et du coup, nous, on a une cagnotte en ligne, donc sur LOASO. Et on essaie d'organiser pas mal de choses. Par exemple, on a tenu des ateliers où on permettait aux gens de fabriquer leurs goodies, comme le petit porte-clés que je t'ai amené tout à l'heure, ou bien on les vend à prix libre. On en profite pour faire parler du projet, on distribue des stickers, on pose des affiches dans le centre, chez les sponsors, chez les partenaires, tout ça. On vient des super émissions de radio, on a des articles dans le journal, si tout se passe bien. Donc voilà, on en parle le plus possible, en fait.
Et comment les entreprises, elles vous aident, elles deviennent sponsors?
Alors, c'est quoi la question, pardon?
Comment les entreprises, elles vous aident, elles sont sponsors, partenaires?
Ouais, c'est ça. On a déjà, dans un premier temps, l'université qui nous a permis d'organiser tout ça dès le début par des subventions. Et ensuite... pour compléter le budget, nous, on est allé démarcher des sponsors donc qui, eux, nous permettent de nous financer le matériel nécessaire à la réalisation du voyage, en fait, que ce soit du matos pour les vélos, pour le bivouac, pour la nourriture. Et voilà, en fait. Et on complète par un peu de trésorerie avec les ateliers dont je te parlais tout à l'heure.
Et Fabien, comment vous avez pris contact avec les associations bénéficiaires?
En fait, on a fait une genre de liste avec plein d'associations, enfin non, pas plein d'associations, plein d'entreprises, où on avait soit travaillé, soit été stagiaire, soit on connaissait des personnes là-bas, ou juste des entreprises où on allait fréquemment. Par exemple, des entreprises comme des cafés vélos, comme des stops. Et donc, c'était justement pour leur parler du projet et savoir s'ils voulaient bien nous aider. Et donc, on a réussi à avoir 4-5 entreprises qui ont bien voulu nous donner de l'argent ou des barres énergétiques.
Voilà. Et du coup, ta question, c'était sur les
associations bénéficiaires. Sur les associations bénéficiaires aussi d'Espagne. Comment vous avez dit celle-là, je l'ai choisie?
Eh ben, en fait, en gros, il y a une... on a ciblé parce qu'on savait que ça a touché essentiellement la région sud de Valence. Et il y a une fondation là-bas qui s'appelle la Fondation Horta Sud, qui, elle, coordonne l'action associative de toute la région, en fait. Et du coup, on est rentré en contact d'abord avec eux. Eux, ensuite, nous ont mis à disposition une liste avec les assos qui avaient besoin d'aide, qui étaient touchés. Et dans cette liste, nous, on a contacté... pas mal d'assos, on est rentré en contact avec pas mal de gens et ça a matché au final avec les deux dont on parlait tout à l'heure.
Et est-ce que vous avez peut-être reçu des messages de soutien de personnes touchées par ces inondations? Est-ce que vous êtes déjà en contact avec, vous avez déjà un lien avec les habitants, les acteurs locaux?
Ouais, carrément. Bah, du coup, déjà avec ces deux assos, on a fait des visios, etc. Ils nous ont même fait une petite vidéo. La première asso a dit ça. Donc ouais, on a des contacts, messages, téléphone, et c'est cool.
Fabien, Victor, vous restez avec nous. On continuera à parler de toutes les infos pratiques, tout ça, comment on peut vous suivre aussi juste après. Mais d'abord, on passe tout de suite à l'édito impro avec toi, Charles.
L'édito impro de Topette avec Charles.
Salut Nolwenn, salut les copains, salut les improvisants joints. Troisième épisode du Topette géographique sur les styles de jeu en impro. Est-ce que les gars, vous avez déjà vu un match d'impro par le passé? Vous savez de quoi je parle ou pas du tout?
Pas du tout.
Pas du tout? Bah écoute, vous le saurez, je vous invite à en voir, il y en a tout plein sur Angers. Donc après avoir parlé du constructeur qui est à la base de tout, du puncher qui agrémente le tableau avec des paillettes d'humour, il est venu le temps de parler du serveur, la clé de voûte de tout ça. C'est celui qui va faire ce qu'on appelle la troisième entrée. Attention, ce soir, il y a de la terminologie, hein, d'accord? Donc là, il va faire la troisième entrée. On parle de troisième entrée quand les improvisateurs RIS entrent en patinoire si l'histoire a besoin d'un personnage en plus. Mais attention, pas que. Par exemple, dans une impro, on se met dans le bain, on parle de Sylvain qui a volé un gâteau. Ben ça veut dire que sur les bancs des joueurs, il y a un joueur qui se prépare à incarner Sylvain plus tard dans l'impro. Dans le jargon, on dit que les constructeurs en jeu ont fait un appel. Dans le dialogue des constructeurs, on a nommé un personnage. Ce qui envoie le message aux joueurs sur les bancs que ce personnage doit arriver plus tard dans l'histoire si l'évolution stagne. C'est pas obligé, mais voilà, on envoie quand même ce message-là. Il y a aussi des appels par négation. Par exemple, on peut dire « il faut surtout pas que Sylvain nous surprenne ». Ben c'est évident, les gens, que Sylvain va finir par arriver un peu plus tard. C'est un peu comme dans les films d'horreur quand ils disent « il faut pas réveiller la momie ». Ben tu peux être sûr que la momie va se faire réveiller deux scènes après. On a aussi ce qu'on appelle le service. Donc après l'appel, on a le service, où on est au service de l'histoire. Il n'y a pas nécessairement eu d'appel venant des joueurs en construction, mais c'est la situation en elle-même, par son contexte, son ambiance, qui inspire la troisième entrée. Ces troisièmes entrées sont soit des adjuvants, soit des opposants à l'histoire. Par exemple, si on est dans une prison, avec deux personnages qui cherchent à s'évader, on peut avoir une joueuse qui entre en patinoire pour faire l'amaton qui leur retire leur petite cuillère. C'est une opposante parce qu'elle perturbe l'avancée de l'histoire. Dans cette même situation carcérale, on peut avoir un autre prisonnier qui, ayant mal calculé son coup, perce le mur de la cellule et leur permet de s'évader. Ce serveur est donc un adjuvant, un coup de main providentiel à l'histoire pour nos constructeurs. Il n'y a pas eu nécessairement d'appel formel en jeu, juste c'est les joueurs sur leur banc qui ont décidé d'aider ou de nuire l'histoire simplement pour la rythmer. Ça, pour être franc, c'est des techniques qu'on apprend assez rapidement en impro. Les improvisateuristes qui nous écoutent sont là présentement, ils ne sont pas transcendés par une illumination avec tout ce que je suis en train de leur dire. Mais ce que l'on a tendance à oublier, c'est que le serveur a surtout un rôle de soutien psychologique envers les joueurs qui se lancent dans l'inconnu. Alors là, j'en ai rattrapé quelques-uns. Quand l'arbitre annonce une catégorie qui fait peur ou un thème qui nous inspire pas, une fois que le caucus est passé et que les joueurs sont lancés, ceux qui restent sur le banc ont souvent, parfois trop, tendance à se mettre en mode spectateur en attendant que la mise en danger passe. Mais c'est pas comme ça que ça se joue, les copains. C'est pas quelques joueurs qui subissent les difficultés, c'est l'équipe tout entière. Vous serez spectateur quand vous serez dans les gradins et que vous aurez payé votre place. Là, physiquement, si vous êtes sur votre banc de joueurs, ben vous êtes quand même sur scène. Donc ça veut dire que vous avez un boulot à faire. Toujours, même quand vous êtes n'êtes pas en patinoire, vous devez rester focus sur ce qui se passe. Vous devez toujours réfléchir à comment vous pouvez servir. Le serveur est donc un soutien psychologique à ceux qui sont dans l'inconnu. La prise de risque est toujours plus simple à prendre quand tu sais que ton équipe est là pour te soutenir. Si pendant le caucus, le joueur qui se lance entend les membres de son équipe se désengager, dire « Ah, ben tant mieux, c'est toi qui vas, hein, vas-y, parce que moi, j'avais pas d'idée. » Ou bien « Oh, c'est pas moi qui l'a fait, celle-là. Hein. Non, débrouillez-vous. » la prise de risque pour lui est beaucoup plus grande. Non seulement il doit se lancer dans quelque chose qui est compliqué, mais en plus, il sait pertinemment qu'il doit le faire tout seul. Donc le stress monte, donc la performance sera moins bonne. C'est hyper important à garder en tête. L'impro est un jeu d'équipe. Le lâcher prise est possible principalement parce que l'on fait confiance à son équipe et on sait qu'ils peuvent être là si on en a besoin. L'autre difficulté en service, c'est la parité des deux équipes. Faites attention à bien respecter ça. Évitez autant que faire se peut la supériorité numérique. Si votre équipe a déjà fait sa troisième entrée, s'il y a un appel et ou si un service doit être fait, c'est au tour de l'équipe adverse de le faire. C'est au tour de l'équipe adverse de jouer. C'est pour ça aussi qu'il faut calculer la qualité de son intervention. Ça peut être long avant que ce soit votre tour de servir. Quand vous avez fini votre proposition, quand votre personnage est plus utile à l'histoire, partez et laissez la place aux autres services. De cette manière, on ne surcharge pas le plateau et on aura une lecture beaucoup plus propre de l'histoire qui est proposée. En conclusion du topette géographique, on a duré quand même 3 épisodes là-dessus, j'aimerais rappeler qu'il n'y a pas de petit rôle en impro. Il y en a qui prennent davantage la lumière, oui, c'est un fait. Mais il faut comprendre que chacun des rôles est au service, oui, de l'histoire, mais aussi de la performance des autres partenaires. Le puncher a besoin du constructeur pour concevoir son gag. Le constructeur a besoin du serveur pour habiller et rythmer ses histoires. Et bien sûr, le serveur a besoin de la construction pour pouvoir rebondir. Et tout ce beau monde-là a besoin de savoir l'implication de ses partenaires de jeu pour pouvoir aller chercher le meilleur de leur performance. Encore une fois, ces 3 types de jeux, on les a tous en nous, les gens, juste à différents niveaux selon notre fun, nos envies du moment et nos partenaires de jeu. C'est pas un rôle qui vous est attribué, c'est des outils que vous devez développer pour évoluer dans votre jeu. Apprenez-les tous, maîtrisez-les tous et vous verrez que vous pourrez varier les plaisirs en impro.
Merci beaucoup de nous avoir fait cet édito en pro, Charles. Est-ce qu'il y a des infos concernant, des actualités?
Écoute, là, par rapport à l'improvisation, là, tous les regards sont braqués sur Mur Érigné parce que c'est les 30 ans de l'Alima. On en a parlé à Topette.
Oui, avec le CCJC la dernière fois.
Exactement. Donc, moi, je souhaite un très joyeux anniversaire à l'Alima, la Ligue d'improvisation d'Angers. Parce que moi, c'est une équipe que j'aime vraiment particulièrement. J'ai joué dans ce maillot-là pendant 10 ans. Donc, c'est une équipe que j'aime beaucoup et je leur souhaite joyeux anniversaire. Ça commence vendredi, donc tu l'as dit tout à l'heure, hein, à Mur Érigné au Centre culturel Jean Carmet, à 20h, où on va retrouver l'équipe, une équipe de 1990. Je ne sais pas si vous étiez nés, les gars, mais voilà. Non, il y a des noms qui disent. Bon, c'est pas grave, vous allez nous faire mal. Donc, donc l'équipe de 1990 qui va affronter l'équipe de 2010. Samedi, le lendemain, à 13h30, il y a un match junior parce qu'on se concentre aussi sur le relève qui arrive. On va avoir l'Imaginoire de Trélazé qui rentre tout juste de trappe, soit dit en passant, qui va jouer contre les Salut, c'est l'impro de Beaucouzé dans un match junior à 13h30. Tout de suite après, à 16h30, il y a un spectacle cabaret de l'Alima. Et à 20h, pour clôturer le tout, on a l'équipe 2000, donc de la génération 2000, qui va rencontrer l'équipe actuelle de l'Alima.
Eh bien, merci beaucoup, Charles. On te retrouve dans 2 semaines sur Topette. Et c'est déjà bientôt la fin pour nous, pour cette émission du mardi. On était donc avec Victor et Fabien, qui vont partir tous les deux à Valence en vélo. Qu'est-ce que vous espérez retenir de cette expérience humainement, personnellement, Victor ?
Les rencontres, en fait, parce que c'est ça le plus important dans ce genre de projet, j'ai l'impression. Il y en a déjà eu beaucoup alors qu'on n'est pas encore parti. Donc en route, j'imagine que va y en avoir encore plus et ça va être chouette.
Fabien, est-ce que vous allez tenir une sorte de carnet de bord ? Est-ce qu'on va pouvoir vous suivre peut-être ?
Oui, il y aura un carnet de bord sur notre Instagram AVBC25. Et donc, oui, on va essayer d'en parler, de communiquer, parler de comment ça marche, le bikepacking.
Et si on veut vous soutenir, donc, il y aura une cagnotte en ligne. Est-ce qu'il y a d'autres manières de vous soutenir, Victor ?
Ouais, vous n'êtes pas obligé de participer financièrement, juste de venir voir nos réseaux, partager, pourquoi pas, si ça vous tente, ou juste venir voir où on en est, ça sera déjà bien.
Eh ben merci beaucoup Victor et Fabien d'être passés dans Topette et d'avoir partagé tout ce beau projet. Nous, pour demain, on sera avec le Bagad Festival. Jeudi, on sera avec le CDN. Et je vous rappelle donc que la salle Camille Lepage de la Maison de quartier des Hauts-de-Saint-Aubin va organiser un concert ce samedi 26 avril au programme de la pop-rock avec Toucan Toucan et de l'alternative Airbnb avec Christian Théodian. Et moi, je vous dis à demain et topette.